le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Un pas de côté. Il est parfois utile et agréable de faire un pas de côté et d'explorer sa discipline à partir d'un autre endroit. Après les tables rondes sciences et société, les rencontres histoire de ma thèse et histoire de ma recherche, le Lab U propose un nouveau rendez-vous intitulé « Un pas de côté ». L'interview d'un enseignant-chercheur sur un ouvrage qui ne fait pas partie de sa discipline, mais qui l'éclaire. Aujourd'hui, Michaël Lavenne, juriste, enseignant-chercheur au LabLex, présente « L'ordre du jour », prix Goncourt 2017, un roman d'Éric Vuillard sur la genèse du Troisième Reich depuis la préparation des élections de 1933 par Hitler jusqu'à l'invasion de la Pologne. Également invité, un collègue enseignant-chercheur du LabLex, Valère Ndjor. Bonjour, Michaël Lavenne. Pourquoi avez-vous choisi de présenter le roman d'Éric Vuillard, L'ordre du jour ?
Bonjour, merci d'abord de nous permettre de nous exprimer sur du roman. D'habitude, on s'exprime davantage sur le droit. Et c'est vrai que d'évoquer les lectures parajuridiques qui nous aident à comprendre le droit, ça permet de mettre en valeur des romans comme celui-ci. Alors, celui-ci, j'en avais fait la découverte en lisant les sujets d'agrégation de droit public. Et il se trouve que l'un des passages de cet ouvrage avait été donné en sujet. Et à l'époque, les juristes, la discipline avait été surprise que le jury mette en sujet l'extrait d'un roman, et par curiosité j'avais été donc lire le bouquin, et je l'ai choisi tout simplement parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est un bouquin court qui se lit très vite, qui, même si on n'a pas de connaissances juridiques, même si on n'a pas de connaissances historiques, on plonge véritablement dedans avec une écriture courte, une écriture efficace. Et de mon point de vue, c'est un ouvrage qui traite de sujets assez complexes, les institutions, une période historique troublée, et qui pour autant peut être lu, de mon point de vue, par un étudiant de première année, deuxième année, n'ayant aucun prérequis, ni en histoire, ni en droit.
D'accord, oui. Alors, est-ce que vous pourriez présenter l'ouvrage en quelques phrases, déjà, dans son... Bon, un peu plus précisément, quoique c'est quelques mots.
L'ouvrage, comme vous l'avez dit, dresse le portrait du développement du nazisme depuis les élections de 1933 jusqu'à l'invasion de la Pologne. L'ouvrage commence par la réunion des 24 plus grands industriels allemands avec Göring, dans la perspective de soutenir le développement du nazisme. Le passage est très intéressant puisque Göring explique aux industriels que grâce au parti nazi, il n'y aura plus d'élections, donc plus d'instabilité politique et donc une plus grande stabilité de l'économie. Oui. Donc l'ouvrage est très accroché déjà de ce point de vue-là, parce qu'il fait le lien entre, d'un côté, la question des intérêts du marché et de sa stabilité, et de l'autre, la question de la démocratie et de l'instabilité qui est l'essence même de la démocratie. Et puis, comme ça, l'ouvrage égrène au fil des chapitres différentes thématiques de ces années, commençant par cette réunion, puis les rapports avec le chancelier Schössning en Autriche, et puis aussi le contexte international concernant la réaction ou la non-réaction des puissances étrangères qui entourait l'Allemagne, et puis aussi dans le bouquin des personnalités qu'on connaît peu, des petits personnages finalement. Alors Adolf Hitler qui est présent, qui est un peu un petit personnage en creux, qui est parmi dans une mosaïque de personnages, et c'est pour ça que le bouquin est intéressant de ce point de vue, parce que il campe comme ça en 150 pages des personnages, une histoire, des institutions.
Oui, oui. Bon, j'ai évidemment lu le livre aussi, et moi, il m'a beaucoup plu aussi. Moi, j'ai été par exemple frappé par la scène de l'embouteillage des Panzers. Non, à un moment, il y a Hitler, on l'imagine, il décrit dans sa Mercedes, il klaxonne. Et il est face à un embouteillage absolument monstrueux, parce que la moitié de l'armée là, est en panne, en fait. Est-ce que vous pourriez peut-être faire un point là-dessus.
Alors, cet extrait des chars que vous avez relevé, effectivement, est vraiment tout à fait intéressant parce que il y a deux dimensions. La première, effectivement, alors d'abord sur l'aspect historique ou pas, pour tout vous dire, je n'ai pas fait suffisamment de recherches pour vous dire sa véracité, mais ce qui compte, c'est finalement ce qu'on en retient et la manière dont ce qu'on va garder de cet extrait, c'est qu'il montre effectivement un énorme embouteillage de chars et finalement, c'est ça, c'est que Hitler est ramené à un type qui est en panne. qui râle parce que les moteurs ne démarrent pas. Et l'auteur montre bien que derrière toute cette iconographie qui nous habite encore, puisque pour l'heure, Hitler reste... Enfin, notre Hitler n'est pas le Hitler de l'époque, ni même de ceux qui le perçoivent à l'époque. C'est un acteur politique parmi d'autres, sans doute très véhément, mais dont on ne perçoit pas... qui n'a pas encore cette symbolique de puissance qu'il a aujourd'hui. Et donc, on le découvre comme ça, en panne avec ses chars. Et l'ouvrage montre bien que finalement, à l'époque, ça n'était qu'un homme dont la force reposait sur des chars. Et l'auteur le dit bien, c'était de la tôle creuse. Et l'autre aspect concernant...
D'autant plus qu'à cette époque, les chars, je crois, n'étaient pas au point, enfin, en 38.
Ils n'étaient absolument pas au point. Ils expliquaient bien que les personnes étaient... Enfin, les soldats étaient mal installés dedans. C'est-à-dire qu'il y a même une sensation d'amateurisme. Et ça fait du bien, finalement, de voir Hitler en amateur dans un embouteillage. Et ça renvoie aussi cet épisode de l'embouteillage à la question des chars, puisque c'est à peu près à ce moment-là que les choses sont évoquées dans le bouquin. C'est sur la question de la construction de ces chars. C'est-à-dire que la question de l'embouteillage est liée aussi à la manière dont les chars avaient été construits, c'est-à-dire en cachette.
Oui, derrière, il y a ce profil, tout l'appareil industriel qui est en train de se construire et la façon dont, à la fois, on peut faire des armes alors que c'est interdit par le traité de Versailles, c'est ça, hein ?
Exactement. Le traité de Versailles avait établi des conditions extraordinairement drastiques du point de vue économique, mais aussi du point de vue militaire, avec la limitation de l'armée allemande à pas plus de 100 000 hommes et puis à la limitation aussi de la construction d'équipements militaires. Le but étant évidemment à l'époque d'éviter que l'Allemagne puisse se reconstituer militairement dans la perspective d'une vengeance. Et ces chars, en réalité, ont été reconstitués. Et ce qui est assez intéressant, et pour le juriste notamment, c'est que les chars ont pu être construits par le biais de sociétés écrans. C'est-à-dire que le gouvernement allemand a réussi à enjamber le traité de Versailles, alors sans doute en cachant aux autres forces qui sans doute ne voulaient pas voir, ne voulaient pas voir que derrière toutes ces sociétés écrans, en réalité, il s'agissait de reconstruire une armée. Et tous les chars, en fait, étaient ralliés à des sociétés privées écrans. Et c'est de cette façon que Hitler a réussi à reconstruire une armée, mais qui, du coup, tombe en panne.
Dans un épisode presque comique, enfin comique, on pourrait imaginer du Tati, là, où...
C'est vrai.
Ou du Chaplin, hein. Enfin, Chaplin s'est déjà essayé sur Hitler, avec brio.
Mais c'est vrai qu'on imagine, effectivement, cet aspect de la mécanique qui s'enraille.
Oui, c'est ça, oui. Donc on voit, on a affaire à un livre qui raconte l'histoire, hein, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde, même, puisque c'est devenu une histoire mondiale. Alors est-ce qu'on pourrait départager, ou est-ce que c'est intéressant de le faire même, départager ce qu'il y a de roman et d'historique? D'un côté, il y a le romancier, de l'autre côté, l'historique. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est intéressant de le faire? Ou au contraire, il ne faut peut-être pas le faire, justement, pour faire de l'histoire
Alors, c'est vrai que c'est la première question, et moi le premier, lorsqu'on lit l'ouvrage, il est tellement bon qu'on se dit, alors, mais qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai? Et au total, de mon point de vue, ça devient presque une question secondaire parce que, évidemment, on se doute bien que certains dialogues n'ont pas pu faire l'objet de retranscriptions historiques et sans doute c'est le romancier qui a comblé avec l'écriture les manques historiques. Mais finalement, en comblant les manques historiques, il nous fait ressentir la réalité de l'époque de façon sans doute beaucoup plus vivace que ne le ferait un bouquin d'histoire avec une série de dates ou un bouquin de droit avec une série de lois. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça pose la question du vrai, qui évidemment dans les disciplines est centrale. Et moi-même, c'est-à-dire que finalement, est-ce que le sentiment de réalité n'est pas beaucoup plus vivace dans le cadre d'un roman que d'un compte rendu scientifique? Et je trouve que le support du roman est un support intéressant justement pour diffuser des informations aux étudiants notamment, et pour qu'ils ensuite, en deuxième temps, puissent aller chercher les bouquins d'histoire et les bouquins de droit.
Oui, oui, oui.
Et d'ailleurs, si tu peux me permettre, Hervé, à un moment donné, vers la fin de l'ouvrage, plutôt, il est fait référence aux audiences du tribunal de Nuremberg, durant lequel, justement, les principaux acteurs de l'ouvrage ont l'occasion de témoigner de certains dialogues ou de certaines rencontres qui sont décrites dans l'ouvrage. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se demande comment s'est passé ce procès. Alors, on imagine que l'auteur a peut-être pu accéder aux archives, ce qui lui permet aussi d'avoir ce degré de détail, parce que finalement, ce sont des sources de première main. Mais voilà, plusieurs des personnages, je dis personnages avec beaucoup de guillemets, qui apparaissent dans cet ouvrage, ont témoigné devant les juges du tribunal de Nuremberg à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça a sans doute aussi permis la construction de ce récit qui apparaît presque intime par moment.
Oui,
notamment lorsqu'on parle du chancelier d'Autriche, le narrateur devient...
Oui, Vuillard, il nous met en scène vraiment ce qui mobilise les acteurs. Oui. Et il les retrouve après la guerre où ils se sont révélés assez pitoyables finalement, tout en étant d'énormes assassins en fait. Si on revient au début donc des années 30, l'Allemagne c'est la République de Weimar. Et naïvement, quand on n'est pas juriste peut-être, on peut se dire une république c'est tenu par notamment une constitution. Constitution, le pilier de la république, le pilier de la démocratie, ouais. Alors on pourrait se dire, si la constitution c'est le pilier, donc qu'a-t-il manqué ou qu'aurait-il manqué à la constitution de Weimar, à la façon de préciser les mécanismes institutionnels et constitutionnels pour éviter cette tragédie où quelqu'un comme Hitler, qui avait déjà fait de la prison quand même, avec les SA qui étaient déjà là, qui endossaient des formes plus ou moins criminelles, qu'est-ce qui aurait manqué au texte de loi qui régissait au texte de la Constitution de Weimar pour éviter cette élection où Hitler a été élu finalement légalement.
Mais c'est une question qui est immense parce que d'un côté, on voudrait que le droit puisse nous protéger de tout et en particulier de ce genre de dérive, pour parler faiblement. Mais pour autant, il y a d'un côté ce que le droit est, c'est-à-dire des textes qui ne vivent que par les hommes qui les appliquent. Et donc les textes qu'on écrit, ça dépend tout simplement comment ils sont appliqués. La constitution de Weimar, elle aurait pu être appliquée de mille manières. Elle aurait pu être interprétée de sorte d'éviter cela. Et je ne suis pas convaincu qu'un article de plus ou deux aurait permis d'éviter cela. Oui. Il aurait fallu sans doute des hommes pour faire valoir d'autres interprétations de cette constitution. Parce que finalement, les institutions, alors Montesquieu disait, voilà, les institutions vont permettre de calmer les passions des hommes, mais de mon point de vue, c'est un peu valable dans les temps ordinaires, c'est-à-dire quand les choses fonctionnent de façon à peu près classique, le droit empêche certains excès. Mais quand l'extraordinaire survient, et on est aujourd'hui bien placé pour le voir, eh bien, les verrous juridiques sont susceptibles de sauter les uns après les autres, parce qu'en fait, ce sont des interprétations. Et je trouve que ce genre de situation, comme celle que nous vivons d'ailleurs actuellement, toutes choses étant égales par ailleurs, je trouve que ça montre aussi, ça démystifie le droit, ça montre le truc, c'est-à-dire que le droit existe parce qu'on y croit, il existe parce qu'on a l'habitude de l'interpréter d'une certaine manière, mais un texte peut se changer, une interprétation peut évoluer. Donc pour conclure, je pense que c'est pas tant une ligne de plus dans la constitution de Weimar qui aurait changé les choses, mais peut-être d'autres types d'hommes pour l'utiliser.
Peut-être pas de crise de 29, peut-être pas de traité de Versailles, peut-être pas plein d'autres choses, ouais. Le droit ne rend pas éternelle les démocraties.
Le droit,
En
fait, le droit, il est ce qu'on en fait. Okay. Le droit, c'est Kelsen qui disait, un auteur en droit qu'on utilise très souvent, qui disait, si on regarde le droit dans les yeux, on ne verra que la hideuse face du pouvoir qui vous fixe. Voilà.
D'accord. Belle phrase. On va continuer sur le droit, parce que vous avez une double identité, je dirais, à la fois chercheur et à la fois pédagogue. Vous êtes enseignant face à des étudiants. Et on va continuer sur le droit. Donc, à partir de cet ouvrage, on commence par la pédagogie, peut-être, même si la recherche parfois vient en premier, sur la pédagogie. Quel est l'intérêt ou quel serait l'intérêt pédagogique de cet ouvrage ? Enfin, quel est l'intérêt pédagogique de cet ouvrage ? L'intérêt du détour par une forme qui n'est pas par nature pédagogique, le roman, pour rendre compte de la dimension juridique, là, en l'occurrence, de l'accession au pouvoir d'Hitler et de tout ce qui suppose derrière de dimension juridique. Ouais.
Sur l'aspect pédagogique, dans la tenue d'un cours, il y a toujours un séquençage, et c'est vrai que d'utiliser des romans dans un cours, ça permet toujours de ventiler. C'est-à-dire qu'on va parfois délivrer des informations qui peuvent être arides, lourdes, et de temps en temps, d'utiliser un roman, ça permet tout simplement de raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on va dire, dans ce roman, où il se passe ceci, et donc ça permet, alors on arrête la prise de notes, ou on prend juste moins de notes, et on va expliquer quelque chose, on va raconter une petite histoire, et on va pouvoir, à partir de cette petite histoire, extraire des citations, qui souvent vont être détachés du contexte du bouquin en tant que tel, mais qui va illustrer d'autres choses. C'est-à-dire que, par exemple, l'une des phrases qui m'avait marqué dans l'ouvrage, mais il y en a vraiment beaucoup, où il explique qu'effectivement, le droit constitutionnel, ça sert à arrêter Hitler, ça sert tout simplement à vraiment aux hommes d'État. Et donc, ça sort du bouquin, ça sort de l'histoire et ça permet de mieux diffuser aux étudiants certaines idées.
À ce propos, tout à l'heure, vous avez cité un passage du chancelier autrichien.
Oui,
qui est invité chez Hitler et qui est assez savoureux parce que Hitler le tient entre ses crochets, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire que d'ailleurs c'est en lien avec la citation précédente, c'est-à-dire que lorsque Hitler tient absolument, parce qu'il en était soucieux, à ce que le chancelier Schössning soumette l'Autriche dans les formes juridiques, le chancelier Schössning à ce moment-là a une espèce d'éclair de génie alors qu'il avait été pleutre pendant des années, et bien va dire je peux pas le faire puisque la Constitution ne m'y autorise pas, c'est le président, etc. Donc il va invoquer la Constitution. Il va invoquer la Constitution. Et alors, ce qui est très étonnant dans le passage, c'est que Hitler ne s'attendait pas du tout à ça. Et alors, dans l'ouvrage, Éric Vuillard met en scène Hitler. Il dit « Le plus étrange fut dans la réaction d'Hitler, il bredouilla à son tour. Alors vous avez le droit. Comme s'il ne comprenait pas ce qui arrivait, les objections de droit constitutionnel le dépassaient. » Et Éric Vuillard ajoute avec son droit, donc le chancelier, avec son droit, il le tenait, avec ses études de droit, avec sa licence. Ça y est, le brillant avocat tenait le petit agitateur ignorant. Oui, le droit constitutionnel existe, et ce n'est pas pour les termites ou les souriceaux. Non, c'est pour les chanceliers, les véritables hommes d'État. Car une norme constitutionnelle, monsieur, vous barre la route aussi puissamment qu'un tronc d'arbre ou un barrage de police. Bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'extraits dans les manuels de droit constitutionnel qui rendent autant compte de façon aussi, à mon avis, incarnée de la fonction sociale et politique du droit constitutionnel.
Voilà. Sauf que la suite de l'histoire nous montrera que le tronc d'arbre n'est pas suffisant, finalement.
Il n'y a peut-être pas fait assez de droit constitutionnel.
Voilà. C'est arrêté en licence.
Et là, si je reste sur le droit et la pédagogie, je peux me tourner vers Valère Ndjor. Donc, vous êtes, vous, plutôt sur le droit international. Et vous avez aussi lu l'ouvrage. Comment quelqu'un donc, comme vous, qui doit enseigner le droit international, c'est pas simple, pourrait exploiter cet ouvrage pour restituer des grands principes du droit international, parce que là, il s'agit quand même d'une invasion. Au départ, c'est l'histoire de l'Allemagne, ça devient l'histoire de l'Autriche, puis de la Tchécoslovaquie, puis de la Pologne, puis de la France, puis de l'Angleterre, et puis bon, etc.
Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire du point de vue du droit international, et d'ailleurs le cours de droit international commence toujours par une perspective historique, la construction de la société internationale qui se fait principalement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la création de la Charte des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. Donc ce sont évidemment des phénomènes qui sont la suite directe ou quasi directe des événements qui sont décrits dans cet ouvrage. Donc, évidemment, d'un point de vue historique, c'est extrêmement intéressant pour les étudiants qui suivent des cours de droit international. On pourrait ajouter à cela que finalement, du point de vue des relations internationales, donc même en sortant un peu du cadre strictement juridique, il y a beaucoup de micro-phénomènes ou d'absence de réactions qui sont mentionnées dans l'ouvrage. Le caractère quasiment impassible de la France, hein, qui est représenté ici par un fonctionnaire en train de d'étiqueter, de catégoriser, en tout cas de vérifier les appellations d'origine contrôlée de ses bouteilles. Donc manifestement, voilà, cette situation ne constitue pas sa priorité. Les Britanniques, incarnés par Halifax ou Chamberlain, qui sont quasiment manipulés en fait par les émissaires nazis qui sont sont les derniers à comprendre ce qui se passe. Certains sont même soupçonnés de collaborer dans finalement dans certaines pages avec le régime. Donc c'est plutôt par l'absence de droit international, en tout cas de l'absence de réaction internationale, que semble briller cet ouvrage. Donc voilà, c'est clairement le reflet de phénomènes de l'époque. Et enfin, peut-être un dernier exemple. Là, ça serait typiquement un cas pratique qu'on pourrait donner à des étudiants en licence 3, en droit international, sur l'agression. La question peut se poser de savoir si, à un moment donné, l'Autriche, placée sous le régime de la contrainte ou du diktat, a réellement pu inviter l'Allemagne à se rendre sur son territoire, ou si finalement, face à ce phénomène de contrainte, elle a été en position de consentir à ce qui, en réalité, du point de vue du droit international, serait qualifié d'agression. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions qui pourraient se poser. C'est clairement pas un ouvrage qui a pour cœur le droit international et les relations internationales, mais il y a des choses quand même à la marge qui intéressent et qui stimulent la réflexion.
Comment distinguer le consentement de l'agression ? Et Hitler en joue merveilleusement, je dis. Enfin, très habilement, ça c'est sûr.
Exactement.
Donc vous êtes tous les deux enseignants, vous êtes aussi chercheurs. Alors moi je vous imagine lire ce livre dans vos propres quêtes sur le droit public, le droit international. Et alors moi, encore une fois, je l'ai lu et il m'a frappé, moi, pour mes propres questions à moi. J'imagine que chez vous, ça a dû résonner aussi, enfin peut-être. Et si oui, alors de quelle manière ça a pu peut-être même aller jusqu'à faire bifurquer vos lectures, votre approche, voire votre écriture d'articles juridiques ?
Alors d'abord, sur la recherche et sur les thématiques, il se trouve que, par un hasard, l'entre-deux-guerres m'a beaucoup intéressé ces derniers temps. Et donc, j'y suis revenu à ce livre concernant l'entre-deux-guerres. Et ça m'a conduit beaucoup plus, pour étudier l'entre-deux-guerres, à aller lire les biographies des personnes qui sont derrière les textes juridiques. Aller lire les biographies de Poincaré, aller lire les biographies de Cartel des Gauches, etc. Donc, à beaucoup plus mobiliser. Et même pas les livres d'histoire, vraiment les biographies, justement, pour ces épisodes où presque on sent la fumée de cigare, quoi. C'est incarné. Donc ça, du point de vue de mes méthodes, ça m'a conduit plus vers les biographies. Ça m'a conduit aussi du point de vue de l'écriture. Alors moi, le bouquin m'a beaucoup donné à réfléchir sur l'écriture juridique, qui est souvent assez aride. C'est-à-dire, justement, les exigences de scientificité conduisent à une écriture souvent très serrée, qui essaye de tirer de la chair, de tirer de l'émotion, parce que le droit, c'est pas de l'émotion, le droit, c'est pas de la morale, etc. Donc, du coup, on retire les adjectifs qualificatifs, bien souvent. On élague. Et ça fait des phrases souvent très sèches, en tout cas pour moi, au début de ma carrière de chercheur. Et finalement, j'ai trouvé que dans le bouquin, il y avait, alors même que les phrases sont courtes, que beaucoup une ponctuation aussi très serrée, là, c'est très épuré. Et même s'il n'est pas aussi précis, le fait qu'il laisse un peu plus de flottement, qu'il y ait plus de généralité, ben moi, ça m'a conduit à revoir mon écriture à ce sujet. Et dans dans le dernier article que j'ai pu écrire sur l'entre-deux-guerres, j'ai repris une phrase que j'ai mis d'ailleurs en en-tête de l'article, parce que ça renvoyait à ma propre thématique, et je trouve qu'il illustre bien ça. C'est-à-dire, il dit, alors je le cite, c'est le dernier paragraphe du bouquin, « On ne tombe jamais deux fois dans le même abîme, mais on tombe toujours de la même manière, dans un mélange de ridicule et d'effroi. » Et c'est vrai que quand on travaille... C'est assez étonnant, parce que notre période, ou même souvent on a tendance à dire c'est un peu comme les années 30. Et j'aime bien, parce que finalement, c'est un risque. Quand on étudie l'entre-deux-guerres, souvent on va dire « bah oui, mais c'est comme maintenant. » Il y a même eu des bouquins, 1938, qui disent « bah oui, mais on est comme sous l'entre-deux-guerres. » Et j'aime bien ce que dit Vuillard, parce qu'il aurait pu servir tout ce discours de « on est un peu comme dans les années 30. » Il dit « mais on tombe jamais deux fois dans le même abîme. » Mais par contre, il dit, il y a toujours ce mélange de ridicule et d'effroi.
C'est ça, oui. Je trouve que c'est très juste. L'homme, en fait, l'homme qui perdure dans ces façons de...
Je trouve ça très juste. Le ridicule et l'effroi, c'est la séquence des chars. La séquence de Schöning qui lui sort sa licence de droit constitutionnel. C'est du ridicule. Et en même temps, c'est effroyable comme l'histoire.
Et Hitler qui décrit quand même comme un parieur aussi, enfin quelqu'un qui joue un peu au poker.
Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie parce que finalement, une fois qu'elle a eu lieu, l'histoire paraît une nécessité. Mais quand elle est en cours, c'est une suite d'accidents et de contingences. Et ça, évidemment, le travail de l'histoire, souvent, lisse les moments de ridicule et d'effroi.
Oui, et pourtant les hommes politiques sont en permanence à improviser devant les micros. et donc à devoir réagir à la minute même, encore plus aujourd'hui que maintenant, à des faits. Et là, on est dans l'humain, ouais. On est vraiment dans l'humain. Ouais. Bah, peut-être que je peux poser la même question à Valère. Alors, je rappelle que le livre a été choisi plutôt par Michael Lavenne, donc, puisqu'il renvoie, a priori, renvoyait plus à du droit public. Mais donc, Valère, vous l'avez lu aussi.
Oui.
Vous l'avez lu récemment, très récemment. Et alors vous, le droit international, vos recherches, est-ce que ce type de lecture peut faire varier votre prochaine lecture, votre prochain article, varier vos obsessions de chercheur, enfin vos questionnements de chercheur, voilà, après avoir lu ce livre?
Alors, peut-être pas mes obsessions de chercheur, voilà, moi j'ai, c'est un ouvrage que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, d'une traite, ça a été vraiment une claque pour moi, et j'abonde dans le sens de ce que disait Michael, hein, sur le fait que finalement, on a tendance en tant que chercheur, en tant que scientifique, lorsqu'on nous laisse le temps d'être chercheur, à opter pour une écriture un peu ampoulée, qui répond à des standards académiques, parce que voilà, on est toujours en train de se dire qu'il faut faire ses preuves, et il est vrai que lorsqu'on écrit... On s'attend à être lu, mais je pense qu'on a tendance à oublier qu'on n'est pas nécessairement lu que par des personnes qui sont des éminences grises. On espère aussi, à terme, être lu par nos étudiants. Et je ne suis pas sûr que la plupart de nos articles soient véritablement écrits pour nos étudiants. Et c'est vrai que ce type d'ouvrage peut véritablement s'intégrer dans une bibliographie de plaquettes de travaux dirigés et puis donner un peu de perspective et puis un peu d'oxygène à nos étudiants qu'on n'aide parfois pas vraiment à accéder à la science. Donc voilà, je dirais pas que ça a modifié mes obsessions, mais ça me conforte peut-être un peu dans certaines idées que j'avais aussi sur la variété des supports qu'on peut utiliser dans la perspective de l'enseignement et puis aussi dans la perspective de la recherche, parce que là concrètement on a un outil qui est précieux.
Merci à Valère Ndior et Michael Lavenne, tous deux juristes, enseignants-chercheurs au LabLex. Lors de notre prochain rendez-vous, Valère Ndior présentera une bande dessinée de Karim Lebourg et d'Aude Massot, une saison à l'ONU au cœur de la diplomatie mondiale, édition Steinkiss 2018. Ces deux ouvrages sont disponibles dans les bibliothèques universitaires de l'UBO.